Radio Spirale. Le romancier belge Grégoire Paulet était de passage à Montréal en février 2012. La librairie Gallimard le recevait à l'occasion de la Nuit Blanche. L'entretien était mené par Guylaine Massoutre.
Alors, Grégoire Paulet, pardonnez-moi, vous êtes né à Cortil, c'est un petit village du Brabant.
Oui.
Et vous avez étudié à Louvain-la-Neuve, oui. Ce que j'ai vu, donc en Belgique wallonne. Et vous êtes devenu professeur de littérature. Mmh. Vous avez fait une thèse en littérature contemporaine espagnole, donc à Barcelone. Alors, voilà déjà traversant les frontières. Et puis, vous avez publié 5 romans chez Gallimard et un petit essai, je pense. C'est un essai sur la gourmandise. Plus, vous avez publié aussi une traduction d'un roman qui n'était pas du tout traduit en français. Un roman espagnol, un roman cordouan, en fait, dont vous allez sans doute me parler un petit peu aussi. Et vous avez déjà reçu plusieurs prix littéraires. Donc, vous commencez tout jeune encore une carrière tout à fait flamboyante, remarquée, et avec des livres qui sont, ma foi, très captivants et très originaux aussi. Alors, on va en parler un petit peu. Alors, L'Orphée éclatante, un livre qui vous a fait connaître et remarquer. Et puis, aujourd'hui, Les ballons d'hélium, un nouveau livre, donc chez Gallimard, qui vient de sortir. Romans, tous deux, portés par beaucoup de rythme, un grand rythme, et puis des grandes fresques. Alors, je voudrais vous demander un petit peu, quelle est cette image, quelle est cette vie qui se débrouille, quelle est cette vie foisonnante qui vous attire et que vous inscrivez dans vos livres ?
Disons que la base de mon inspiration, c'est l'observation. Une observation sans a priori, donc une sorte de contemplation muette, jusqu'à ce que le spectacle varié, disons, des objets, des formes, des personnes, des paroles, du sens, semble former une sorte de structure. Et à ce moment-là, je commence à voir quelque chose. Et cette chose que je vois, je m'efforce de l'écrire alors directement. C'est comme ça que j'ai procédé pour chacun des romans, sachant que chaque roman rend une sorte de vision, fait périmer la vision qu'on a eue. C'est-à-dire que dès qu'enfin je vois quelque chose, je l'écris, et une fois que c'est écrit, en quelque sorte, le travail est fait. Ce que j'ai vu m'apparaît encore quelque temps, et puis après ça s'embrouille, et il faut lire comme s'il fallait lire une deuxième couche, comme s'il fallait scanner une deuxième fois la réalité. C'est donc un travail, une sorte de travail de Pénélope, comme ça. Une fois que c'est fait, ça se défait, on recommence une deuxième fois, avec une sorte d'acquis quand même. Et c'est comme ça qu'il y a une sorte de... Comment dire, au départ, dans mon imagination romanesque, c'est le spectacle justement de l'absence de centre de la réalité. Et donc c'est pour ça que dans Madrid ne dort pas, mon premier roman, il y a une très grande quantité de personnages, dont aucun n'est le personnage principal. À la rigueur, on pourrait dire que la ville de Madrid est le personnage principal, mais c'est plutôt une sorte d'habitude de penser, de dire ce genre de choses. En soi, non, il n'y a tout simplement pas de centre, c'est une sorte de réseau, de structure, justement, le mouvement perpétuel, pour ça que le titre Madrid ne dort pas. Voilà, c'est ça que j'ai vu, que j'ai écrit. J'ai pris un moment, une fois que j'ai vu ça, je me suis arrêté, je me suis dit maintenant je commence. J'étais dans un café, j'ai commencé à décrire la personne qui était en face de moi, et puis la personne qui passait sur le trottoir de l'autre côté de la vitrine. Ces deux personnes commençant un réseau, puisque deux unités suffisent pour commencer un réseau. Dès que une troisième traversait la relation, j'ai suivi la troisième, et ensuite tout ça était réel, si vous voulez, décrit directement. Ensuite, le personnage rentre dans le métro, c'est-à-dire que là, il quitte ma vision, ma vue, et donc rentre alors en jeu l'imagination, puisqu'une fois que le personnage est entré dans le métro, alors là, il devient un personnage fictif, puisque je ne le vois plus, je suis encore à ma table de café, je voyais la bouche du métro, mais une fois qu'elle a disparu, donc là, il suffisait de continuer, si vous voulez, le réseau. Et cette vision-là de l'humanité répartie dans l'espace, de l'espace comme étant la seule unité, disons, pour pour le sens ou pour l'humanité, c'était ma première, disons, vision vraiment convaincante de la réalité. Et c'est pourquoi elle a pu donner un livre, comment dire, qui est écrit de bout en bout. Voilà. Et c'est de là, disons, que vient. Et puis après, chaque roman est une sorte de tentative identique, mais la première étant périmée, deuxième tentative, puis la deuxième tentative, quand elle a réussi, elle donne un livre, mais une fois qu'elle a donné un livre, entre guillemets, elle se périme, et je suis de nouveau à devoir essayer des nouvelles lunettes, à devoir essayer de scruter à nouveau la même réalité.
Alors, vous me parlez là d'une forme de linéarité, ou plutôt d'une construction spatiale des choses, puisque les choses s'enchaînent, si je comprends bien, et puis elles s'enchaînent par proximité, par contact, enfin par une sorte de peau sensible, hein, qui entraînerait un élément avec un autre. Est-ce que c'est une écriture linéaire, ou revenez-vous pour construire toutes ces fresques, hein?
Alors, c'est tout à fait linéaire, c'est-à-dire que je n'ai jamais écrit avec plan. Et même si les structures ont l'air complexes, et en fait elles n'étaient jamais prévues. Mais simplement il y a un long temps d'observation, et puis une fois que, si vous voulez, vous avez le théorème, vous pouvez le faire fonctionner. Vous savez exactement dans quelle limite vous vous trouvez, vous connaissez la recette, si vous voulez, la formule, donc vous pouvez produire votre expérience chimique parce que vous avez la formule. Et donc c'est une écriture totalement linéaire et qui, dans les premières visions, disons Madrine ne dort pas, rend compte justement de la connectivité des réalités dans l'espace. L'espace étant vraiment... Et puis après, au fur et à mesure des livres, c'est ce qui éclate, si je veux dire, dans les ballons d'hélium, la valeur de l'espace comme support solide ou consistant de la réalité, comme base de construction du sens, vole en éclats, devient tout à fait caduque pour le céder totalement au temps. Et une fois que je rentre dans l'utilisation du temps comme support pour la représentation et pour donner du sens, pour trouver du sens, le temps lui-même se dérobe immédiatement. Et c'est pourquoi dans les ballons d'hélium, le temps en quelque sorte est devenu extrêmement glissant, pour ne pas dire qu'il est au bord de ne pas exister. Et ça c'est un peu l'évolution, donc, de cette vie grouillante répartie dans l'espace tel qu'elle m'apparaît au début de mon écriture, et au fur et à mesure cet espace gardant quand même très longtemps sa solidité, c'est-à-dire mon deuxième roman ne le remet absolument pas en question, le troisième de nouveau l'utilise très fort, La Revue éclatante c'est une sorte de Madrine ne dort pas mais plus ambitieux sur 7 jours, l'espace continue vraiment d'être la planche de salut, quoi, vraiment, c'est ça, la planche, hein, ça ressemble d'ailleurs à une planche, l'espace, c'est là-dessus qu'on peut flotter, qu'on ne sombre pas, qu'on ne se noie pas dans la réalité. Mais avec les ballons d'hélium, c'est fini.
Vous avez beaucoup d'humour, et bon, j'y pense en vous écoutant. Les choses, quand elles s'entraînent, quand elles s'enchaînent les unes avec les autres, ces pans de réalité, ces personnages, ces situations dont vous parlez, est-ce que c'est un rapport un peu comme le mot d'esprit, hein, un peu comme s'il y avait une association nécessaire mais cachée? Est-ce que c'est un petit peu comme ça, ou est-ce que c'est plus sensoriel et plus... comment entrez-vous dans votre imaginaire, finalement, à partir de l'observation de la réalité? Est-ce que avez-vous une... parce que vous racontez des choses qui sont apparemment très joyeuses, très ludiques, très vivantes, multiformes, composites, et puis il va arriver aussi, on n'est pas seulement dans un univers de description, il va se passer des événements, même s'il y a beaucoup de micro-scènes qui sont juxtaposées, coordonnées, et puis que finalement tout ça va entrer dans une alchimie, une chimie, hein, qui va créer quelque chose qui est plus événementiel, on pourrait dire, ce qui fait la base, le cœur d'un roman et d'un drame quelconque, enfin, qui va se révéler particulièrement fort dans le ballon d'hélium. Alors, est-ce que cet humour, donc, est-ce que c'est relié au fond à la façon dont vous construisez les choses, le plaisir que vous en avez?
Je ne me suis jamais posé la question dans ces termes, mais il semble qu'effectivement, disons qu'il y a... Il y a régulièrement de l'humour dans la mesure où... d'abord, c'est involontaire. Il n'y a jamais rien qui est prévu, il n'y a jamais rien qui est programmé. Ce qu'il faut, c'est se mettre dans un état qui est convenable pour l'écriture. Et si jamais on est dans cet état-là, on peut aller au bout du livre. Mais simplement, il ne faut pas sortir de cet état. C'est beaucoup une question d'attitude et d'état d'esprit. Si jamais vous êtes mis pour fendre le vent, il n'y a pas de problème, vous pouvez traverser l'Atlantique, vous pouvez traverser votre livre, même si la route n'est pas définie, ça dépendra des vents, etc. Et l'humour fait partie, à mon avis, des courants qu'on traverse, ou des, si on a parfois des traversées ensoleillées, parfois des traversées venteuses ou orageuses, tempétueuses, ça dépend un peu. Et probablement que l'humour vient... il n'y a presque jamais rien de prémédité dans mes romans. Par exemple, le deuxième roman, Excusez les fautes du copiste, qui est l'histoire d'un peintre faussaire. Là, évidemment, avant même l'humour, c'est carrément l'ironie. C'est l'ironie qui fonde même le roman, puisqu'il s'agit d'un peintre qui fait des faux tableaux absolument identiques aux originaux, et qui finalement même fait des faux tableaux absolument identiques à la première copie qu'il avait fait, détruisant l'original, et donc remettant en cause le concept d'œuvre originale, de vérité, de réalité, etc. Effectivement, l'ironie et donc l'humour sont déjà intrinsèques même à la construction de la fiction, parce que quand je dis que je regarde la réalité, après ce qu'on écrit, c'est pas la réalité, après c'est une matière littéraire, c'est une réalité littéraire qui est à un autre niveau et qui, presque comme l'ironie par rapport au sens premier, suppose une sorte de décalage, de vie parallèle comme ça, de niveau parallèle où on construit la réalité à travers l'écriture en respectant bizarrement d'ailleurs la réalité réelle, si j'ose dire, ou la réalité historique, puisque ça se passe toujours dans des lieux réels. Enfin, je mets pas la mer à Madrid ni l'océan en Suisse. Enfin, on respecte quand même les codes de la réalité réelle, mais on construit quand même une réalité parallèle. C'est ça le principe même de la narration dite réaliste, qu'on construit une réalité parallèle qui est entièrement faite de mots, entièrement faite de sens, d'esprit, de glissement. Il est probable d'ailleurs que la couleur ou que la surprise à l'intérieur de cet univers-là prenne en fait la forme de l'humour.
Oui, parce qu'il me semblait, je pensais en lisant, quand j'ai lu leurs vies éclatantes, bon, qui se passent à Paris, qui se passent autour de l'église de la place Saint-Sulpice, qui est une église du XVIIe, enfin qui est très classique, et que justement vous avez un univers qui, on pourrait peut-être le qualifier de baroque, parce qu'il y a beaucoup d'apparences, il y a beaucoup de chatoiements, il y a beaucoup de couches, oui. Et puis à l'intérieur, il se passe des choses plus mystérieuses. Et comme si l'écriture devait aboutir vers la révélation de mystère caché dans les ballons d'hélium, c'est particulièrement dramatique, hein, puisqu'on a un personnage, Ariana, et vraiment le type même de, peut-être pas la faussaire, mais la faussaire des sentiments, un petit peu. Hein, elle va découvrir aussi quelque chose de très violent en elle-même.
Oui.
Alors. Est-ce que ce monde un peu baroque débouche-t-il sur quelque chose qui est plus dramatique, plus caché, plus secret ?
Alors, effectivement, il y a... l'art classique, en général, semble porter le message suivant. La réalité a été domptée. C'est un petit peu ça, l'idée. Il y a un centre, il y a une symétrie, il y a un ordre... Et l'esprit de l'homme l'a imposé à la réalité. C'est très très beau d'ailleurs, quand on voit par exemple les jardins dits à la française, dessinés par exemple par le nôtre, on voit qu'il veut faire par exemple, il veut faire une longue perspective avec de nature, avec deux parallèles. Eh bien alors il force la nature à obéir à l'ordre, puisqu'il fait deux lignes qui ne sont deux haies, si vous voulez, deux haies d'arbres qui ne sont absolument pas parallèles dans la réalité, comme s'il faisait un tableau. Elles sont en fait tout à fait divergentes, elles s'écartent en forme de trapèze pour que depuis les salles intérieures du château on voit deux parallèles. Et donc ça, c'est vraiment l'esprit même de l'art classique, c'est de dire nous avons trouvé l'ordre est abstrait et la nature ne demande qu'une chose, c'est d'obéir à cet ordre, d'être déformée pour être, entre guillemets, spiritualisé, devenir conforme aux visions de l'esprit et pas seulement conforme aux visions en fait tortueuses et anormales de la perception extérieure. Ça, c'est l'art classique. Mais pour arriver à un art classique, il faut une force immense, une confiance gigantesque. D'ailleurs, ça n'a pu arriver que dans un pays qui s'est cru à un moment et qui l'était probablement au sommet absolu. Après, tout de suite, dès qu'on arrive à Louis XV, on arrive dans le doute rocaille, le doute baroque. Et à la même époque en Espagne, l'Espagne qui était au XVIe siècle effectivement le sommet du monde, au XVIIe siècle ne l'est plus, et là on n'a pas du tout un art classique, on a tout au contraire un art de nouveau extrêmement baroque, de la question, du doute, de l'inquiétude. Et si jamais il y a quelque chose de... Peut-être que dans le fond j'aimerais beaucoup avoir un art classique, parce que je suis d'accord avec cette vision-là, de dire qu'effectivement la nature demande à être spiritualisée, que la nature demande à obéir à la conscience, à l'esprit, à la pensée, que c'est son souhait en fait, et que d'ailleurs l'homme n'est jamais autre chose que de la matière naturelle qui a accédé à la pensée, qui a accédé à la conscience, et que le reste de la nature demande à l'homme que de faire partie du voyage. Et donc l'homme doit emmener le reste de la nature vers cette spiritualisation, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais pour parvenir à le faire d'autorité comme les artistes classiques, il faut une autorité justement, une sorte de confiance, de suprématie, de solidité que je n'ai absolument pas. D'où peut-être on rejoint un peu l'humour, moi je me sens toujours incapable. Je suis incapable de dresser la réalité comme je le pense, d'affirmer quoi que ce soit. Je suis toujours incapable de... Je peux affirmer des choses pour moi-même, mais je ne peux pas les affirmer pour les autres. Voilà, ça c'est dans le tempérament. D'où, un côté peut-être plus espagnol et moins français, de travailler par, non pas sur le tout, mais sur les parties. De travailler sur les détails plutôt que sur la symétrie. Et donc pour créer des ensembles asymétriques, des ensembles complexes, des ensembles où il y a de tout, et qui sont d'ailleurs ouverts à des interprétations variées, contrairement à l'art classique, qui lui affirme magnifiquement une sorte d'univocité merveilleuse, mais moi, qui ne fait pas partie de mes capacités, tout simplement. Je suis un homme qui travaille par le doute, par la partie, le parcellement, l'expérience locale.
Oui. Mais voilà. Vous avez aussi, il me semble, à l'autre pôle, dans l'autre pôle non classique, enfin ce foisonnement plutôt qu'on peut voir dans la bande dessinée. Bon, je pensais à ce dessinateur anglais qui a fait Où est Charlie, là. Il y a ces fresques immenses de personnages, ou bien même dans la peinture qu'on peut retrouver chez Bruegel l'Ancien, tous ces petits personnages, alors aussi bien donc dans le temps que dans la modernité, ces personnages qui sont représentés, qui sont compacts, qui forment une foule dans laquelle on se perd, mais dans lequel il y a quelque chose aussi, un message qui est plus douloureux, qui est plus peut-être ça peut nous amener à parler de Ariana dans le Ballon d'Hélium, si vous me parliez un peu de la représentation que vous avez de ces rencontres amoureuses, cette femme qui est très attachante.
Alors, l'histoire des Ballons d'Hélium, l'histoire d'Ariana, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui, a priori, est une jeune fille tout à fait conforme, banale, avec des pensées, des sentiments conformes et banals, et qui, disons, à 20 ans, a des idées sur l'amour qui sont comparables à celles qu'on trouve au cinéma ou dans les chansons de la radio, et qui donc, il se fait qu'elle part en voyage d'études à 20 ans en Suisse, et là il lui arrive quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'à l'occasion, le soir de Noël, elle donne un coup de main dans le restaurant d'un lointain parent à Zurich, un restaurant espagnol, et elle donne un coup de main en servant, et elle tombe amoureuse de façon foudroyante d'un homme qui est là, qui est à la soixantaine, qu'elle trouve très beau. Et cet amour est aussitôt répondu, d'une façon assez miraculeuse, enfin instantanée. Et elle vit alors une dizaine de jours, une expérience amoureuse qui est totalement miraculeuse, qui lui donne tout à fait le sentiment de n'avoir jamais existé auparavant. C'est-à-dire qu'elle a vraiment existé à un degré... extraordinaire à ce moment-là. Et puis malheureusement, pour des raisons qui sont discrètement explicitées dans le livre par la suite, c'est-à-dire qu'en fait l'homme est atteint d'une maladie grave, cet homme disparaît. Il disparaît de la vie, il prend la fuite. Et elle l'attend encore quelques jours dans son appartement, dans son bel appartement de Zurich, puisque c'était un homme qui gagnait bien sa vie. Et elle rentre petit à petit dans une sorte de désespoir. D'ailleurs, elle se suicide, enfin, elle se rate finalement. Et puis après, retour à la vie normale, retour en Espagne, et retour à la vie normale et au sentiment d'être définitivement incomprise. Elle a en elle une expérience extraordinairement forte où elle a enfin vécu et elle va chercher à continuer à vivre comme ça et constater que ça lui est tout simplement impossible. Parce que la vie normale, le programme, disons, du bonheur et du déroulement de la vie tel qu'il est proposé par la société aujourd'hui, lui est total, enfin comment dire, la porte à des années-lumière de ce qu'elle a vécu, disons, véritablement. Et donc elle est là obligée à vivre et à ne pas pouvoir vivre une vie extérieure banale. Et donc ça a une double conséquence sur elle. La première, c'est que dans sa vie extérieure, elle devient une fille audacieuse, rapide, brusque, ce qu'elle n'était pas auparavant. C'était une fille qui était beaucoup plus normale, beaucoup plus coulante. Donc là, audacieuse, finalement, elle prend des décisions très rapides. Elle arrête ses études, elle va reprendre d'autres études à Bruxelles en suivant un type qui est tombé amoureux d'elle, dont elle est probablement plus ou moins tombée amoureuse aussi. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elle a connu auparavant. Elle suit ce type qui a une trentaine d'années, qui est norvégien, qui s'appelle Axel, qui travaille dans une grosse banque à Bruxelles, qui habite à Bruxelles. Et donc, bon, voilà, elle, très jeune, à 20 ans, elle commence à mener une vie qui est une sorte de vie sur des coups de tête et en même temps une vie de réussite sociale, puisqu'elle a de l'argent, elle réussit très bien ses études, elle travaille à la Commission européenne à Bruxelles. Mais disons, en dessous de cette vie extérieure brutale et rapide et réussie, en dessous, il y a toute cette expérience intérieure, tout cet amour qu'elle a vécu, cette rencontre amoureuse extraordinaire qu'elle a vécue à 20 ans, se développe, grandit en quelque sorte comme un organisme. Finit par prendre toute la place. Et qu'est-ce que c'est que cette expérience, enfin, qu'est-ce que c'est que cet amour qu'elle garde à l'intérieur? C'est en fait ça devient pour elle la vie intérieure, une vie intérieure, une expérience intérieure, la vie intérieure, la vie dans l'absence, dans tout ce qui n'est pas la réalité extérieure. Et la réalité extérieure va petit à petit perdre totalement sa consistance, lui apparaître comme totalement fausse en comparaison de l'intensité qu'elle trouve encore, malgré l'absence, malgré la disparition de l'homme et de l'amour, l'intensité et l'intérêt beaucoup plus grand qu'elle trouve à la vie intérieure par rapport à la vie extérieure. Et donc, comme c'est une fille qui est extrêmement radicale, qui est devenue extrêmement radicale suite à cette rencontre, parce qu'au départ, elle était banale, mais après, elle devient vraiment radicale, une personne qui ne renonce à rien, qui ne renonce pas à son désir, elle veut aller absolument tout droit, même si, apparemment, il y a des murs. Et donc, elle va effectivement faire une deuxième tentative de suicide, elle va même finalement vivre avec le cauchemar qu'il n'y a plus qu'une seule façon de rester sincère, c'est de sortir de la vie. Et comme elle a fait deux enfants avec son Axel, c'est de partir, mais de partir avec ses enfants, de mourir avec ses enfants, et donc de devoir tuer ses enfants. Cette radicalité, cette façon de ne pas renoncer, d'avoir compris que la réalité extérieure était sans issue et essentiellement décevante, et cette façon de parier sur le fait que la vie intérieure pourrait être en fait l'issue de la vie extérieure, que la réalité intérieure pourrait être l'issue de la réalité extérieure, autrement dit que ce ne serait pas la réalité intérieure qui fait partie de la réalité extérieure, mais le contraire, que c'est la réalité extérieure qui n'est qu'une métaphore ou une petite partie de la réalité intérieure, ça la conduit à une voie qui ne lui semble pas être sans issue, mais qui lui semble passer inévitablement par une sortie de la vie, autrement dit par la mort. Et cette trajectoire terrible ne va être déviée que par la présence d'un personnage secondaire qui est Brigitte, une amie qui d'ailleurs est un peu plus qu'une amie, qui est en quelque sorte amoureuse d'elle, mais enfin, ça n'est pas très, très explicite. Autrement dit, par une autre forme d'amour, de nouveau. En fait, c'est un roman d'amour, il n'y a que de l'amour là-dedans. C'est l'amour qui est difficile, tortueux, violent, mais il n'y a absolument que de l'amour. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit au début, quand elle prémédite le meurtre de ses enfants, pardon, elle dit, bien sûr, ils parleront de haine et ils parleront d'obsession pour la mort, alors que c'est absolument tout le contraire.
On pourrait dire, en lisant, on a plusieurs pistes hein, comme lecteur de compréhension. On voit le roman se dérouler sur plusieurs espaces, parce qu'il y a, il y a un niveau de psychose, on pourrait dire, que le personnage est psychotique. Enfin, tuer ses enfants, c'est psychotique. Bon, on peut dire ça, il y a une folie ambiante, une folie de l'époque, ou une folie particulière, on ne sait pas trop. Hein. Et puis, il y a aussi une sorte de... Si on vous suit dans une forme d'imaginaire, on se dit qu'il y a une métaphore, là, une métaphore de la littérature. Au fond, ce personnage féminin, elle est éminemment littéraire. Elle a connu l'expérience de la fantaisie littéraire et de la vie, de la vie retrouvée, on pourrait dire, la vie proustienne, la retrouvée dans la littérature. Et puis, quand elle revient dans le réel, c'est insupportable, tout simplement. Donc, il y a une sorte de double chemin, on pourrait dire, peut-être. Mais je me demandais aussi s'il n'y avait pas... Si vous y mettiez, vous, une sorte de regard plus social ou plus sur notre époque, en fait. Je me disais, peut-être cette femme, elle représente un peu la liberté que nous avons tous dans nos sociétés riches, hein, puisque vous en parlez aussi de l'importance de la liberté dans votre travail. Donc, comme thématique, elle est libre, elle vit plusieurs vies, cette femme-là. Et au fond, quand elle doit faire un peu la synthèse, quand elle doit choisir, quand elle doit remettre du sens entre les différentes expériences de sa vie, en fait, ça devient insupportable, intolérable, c'est trop grand pour elle. Alors, je me demandais si c'était un peu cette... d'où un peu mes questions préalables sur le sens caché de cette richesse du monde, de toutes ces rencontres que vous faites advenir entre les personnages, tous ces contacts de peau à peau, de contacts proches, des histoires les unes avec les autres, hein, qui sont très belles. Et puis, tout à coup, cette difficulté de saisir. Est-ce que c'est l'expérience de votre génération, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, un nouveau regard sur notre monde? C'est tentant d'aller de vous suivre par là, voilà.
Je ne sais pas très bien. C'est-à-dire que, en tout cas, il y a dans l'expérience d'Ariana une déception par rapport au modèle de bonheur. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on pourrait dire, mais ça la mettrait fort en colère, Ariana, enfin, tu as tout pour être heureuse. D'ailleurs, à un moment, son amie Brigitte, qui est une fille célibataire, qui a 35 ans et qui est une fille formidable, mais qui a en même temps une sorte de... toute une série de frustrations pas tout à fait assumées, voit Ariana avec son mari Axel dans la galerie La Toison d'Or à Bruxelles, en train de regarder les annonces immobilières. Tiens, quelle maison on pourrait acheter? Et donc, ça fait un peu l'image du couple parfait, le bonheur consumériste, enfin, voilà. Et puis après, ils achètent une belle villa dans la banlieue cossue de Bruxelles. Mais Ariana est une, comment dire, par rapport à ce système qui, d'après moi, disons, repose essentiellement sur les signes extérieurs du bonheur et pas du tout sur aucune liberté à l'intérieur du bonheur, mais uniquement sur, autrement dit, le bonheur fait par l'argent. Il fut un temps où on disait sans rigoler, l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, ça n'existe plus, cette idée-là. Hein. L'idée, c'est que l'argent fait le bonheur, la liberté, tout ça. Hein, alors que c'est absolument faux. C'est absolument faux. C'est même extrêmement dangereux, puisque cette conception-là ne crée que des individualismes extrêmement dangereux, dans la mesure où tous leurs biens sont des choses qui ne se partagent pas, qui sont des choses en propriété. Et dès lors, si jamais ils doivent se partager, ils sont considérés comme du vol, et donc ils provoquent des réactions violentes. Bref. Donc, ce plan de société dans laquelle on est, qui est un plan qui, à mon avis, est vidé de son essence, de sa substance, et qui n'a gardé que les formes extérieures, celles que l'argent effectivement permet. Ariadna, elle en profite entièrement, mais elle jette tout à la poubelle. C'est-à-dire que pour elle, c'est une chose qui est totalement sans valeur, sans consistance. Elle en nourrit même une sorte de haine par rapport à, ou de répugnance par rapport à son mari, parce que son mari, lui, il croit à tout ça. Et son mari, il est simplement un type tout à fait normal. Un type comme tout le monde. Et son mari représente en quelque sorte la société telle qu'on la considère aujourd'hui comme bonne et normale, avec toute une série de valeurs, etc. Alors que tout ça est vague apparence et fondamentalement est très pourri. Et donc Ariana ne représente pas du tout un modèle, mais elle représente un modèle de révolte, un modèle de... elle ne représente pas un modèle positif, mais elle représente quand même une sorte d'insatisfaction totale par rapport à ça. Disons, ça n'apporte absolument aucune satisfaction. C'est simplement une façon égoïste d'aller au tombeau, en gros. C'est pas beaucoup plus que ça. Ça laisse de côté, disons, tout ce qui, à elle, lui a paru comme absolument essentiel depuis sa rencontre avec l'amour totalement passionné. Et donc, oui, de ce point de vue-là, il y a une sorte d'engagement, entre guillemets, ou de vision engagée par rapport à la déception totale et au danger même de l'idéologie actuelle qu'on pourrait appeler l'idéologie du bonheur, qui n'est plus le bonheur, mais qui est seulement l'idéologie du bonheur et qui donc nous enferme totalement, puisqu'elle nous interdit, comme toutes les grandes idéologies, elle nous interdit de penser en dehors de ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas être... souhaiter être, enfin c'est ce qu'elle dit, hein. On est tellement à côté, les gens veulent être ratés, mais en fait pour trouver le sens, il faut, les gens veulent être réussis, pardon, alors qu'en fait pour trouver, il faut faire simplement le contraire, il faut rater. Les gens veulent être je, alors qu'en fait il faut abandonner son moi pour trouver quelque chose. Et elle dit, on fait simplement tout le contraire de ce qu'il faut. C'est extrêmement facile d'aller dans le véritable sens de l'existence, dit-elle, ou du sens de l'existence. Il suffit de faire le contraire de tout ce qu'on fait. Plutôt que de manger, ne pas manger. Plutôt que de chercher la jouissance, chercher la souffrance. Ça a quelque chose de... C'est écrit noir sur blanc. Ça a quelque chose de tout simplement inacceptable. Et à mon avis, l'intérêt que ça présente, c'est que le fait que ce soit inacceptable nous conduit d'abord à la considérer, ça c'est toujours le langage de l'idéologie, comme malade. Mmh. Elle n'est pas conforme à l'idéologie, donc elle est malade.
Oui, oui.
Hein, ça c'est très important. Vous vous souvenez Artaud, hein, sur Van Gogh, en disant la psychiatrie est simplement un outil. Bon, il n'utilise pas le mot idéologie, mais enfin vous savez ça mieux que moi. Donc c'est la révélation que en fait il y a une idéologie aveuglante et elle y échappe, et donc comme elle y échappe, elle devient inacceptable. Elle prouve qu'il y a donc une incapacité à percevoir ce qu'elle est, à comprendre ce qu'elle est, parce que l'idéologie, c'est ça, c'est quelque chose qui vous empêche de concevoir autre chose que l'idéologie elle-même. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une sorte de discours sur la réalité d'aujourd'hui, un discours même qui est relativement véhément, comme vous l'entendez, ça éveille en moi, en tout cas, une certaine colère. Je suis extrêmement en colère contre le mensonge dans lequel on est obligé de vivre. Et si on veut en sortir, on est malade, on est dépressif, on a des tas de mots pour vous mettre dans une sorte de prison. Alors non pas une prison physique, mais c'est une prison conceptuelle qui est extrêmement efficace. Vous êtes malade, vous êtes dépressif, par exemple. Ça, c'est deux choses qui sont très... Il y a beaucoup de gens qui sont classés dépressifs et qui ne le sont pas. Si jamais ils étaient écoutés, ils ne se sentiraient pas dépressifs. Simplement, ils ne voient pas le bonheur là où tout le monde le voit, et donc ils sont malheureux. Et donc tout le monde leur dit qu'ils sont malheureux et qu'ils sont dépressifs, et là, voilà, hop, vous les avez merveilleusement mis dans une prison.
Oui, je vous suis bien, ce que vous expliquez, on ressent tout à fait cette force-là dans votre livre, ça éclate, ça jaillit de dessous les choses. Et moi, je me disais aussi, bon, si on regarde un peu, parce qu'on a l'impression, en vous lisant un point de vue social, c'est-à-dire toute cette abondance de la grande comédie humaine balzacienne, il y a le côté réaliste, l'observation, vous avez dit, bon, il y a tout cet aspect-là qui se construit, mais qui se détruit, qui se délite de l'intérieur. Et là, bon, on ne peut pas penser non plus que bon, Perret, qui n'a pas fait du travail important pour les littéraires jusqu'à nous, jusqu'à vous, de déliter, de mettre le vide et le trou et le manque à l'intérieur de l'apparence des choses accumulées, des choses donc post-balzaciennes et post-modernes aussi. L'ironie, c'est bien... On est au-delà de l'ironie, là. On est dans la révolte, la critique, quelque chose qui est sapé de l'intérieur par défaut d'être. Hein, par défaut d'être, c'est ce que vous m'expliquez. Alors, ça, évidemment, c'est une fausse joie donc, qui dirige hein, tout cet univers qu'on pourrait qualifier par moments presque d'enfantin. Vous décrivez des scènes qui sont souvent très ludiques, avec des enfants, avec des conversations, avec même le titre « Ballon d'hélium », c'est la joie, c'est la fête, voilà, la fête. Et dans la fête, il y a quelque chose, comme dans les tableaux anciens, hein, ces tableaux anciens où il y a des grands maîtres, où il y a quelque chose justement de pourri hein, dans la beauté du monde. Donc là, c'est pas pourri, c'est manque, hein, c'est le manque de vie, de sens. Et la littérature, c'est vraiment une fuite, c'est-à-dire j'ai la fuite comme le ballon d'hélium, si on perce, va fuir, hein, le gaz va fuir. Et qu'est-ce qui va rester du ballon de baudruche hein, c'est la métaphore. on dirait un peu que cette littérature, elle est fragile aussi. Elle est menacée. Non, un petit peu, encore une fois, enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant, c'est que la surface des choses peut facilement être percée, blessée, d'où le thème du meurtre, d'où le thème du suicide, d'où le thème de la vie qui fuit, hein, qui pourrait fuir dans ce grand bonheur. Qui pourrait être... des personnages blessés, blessés par la vie, Ariana, elle est blessée. Puis elle est blessante. Mmh. Hein, donc ce motif du meurtre sur soi ou sur l'autre, cette violence qui surprend parce qu'on ne s'y attend pas. Vous nous faites un théâtre, puis tout à coup le drame surgit. Alors on est vraiment happé. Ça c'est vraiment très réussi. Hein, mmh. Cette attaque à l'intérieur du bonheur.
Oui. Oui, la fête comme ça, disons, le spectacle, la comédie humaine comme ça, en fait, donne un peu l'impression, c'est comme dans Shakespeare aussi, hein, c'est très souvent une sorte de fête, et puis après vous avez un Hamlet qui vient troubler la fête. Et en fait, cette fête donne un peu l'impression que tout le monde danse en évitant de se poser la question, quelle question on n'ose même pas y réfléchir, mais tout... Il y a une sorte d'accord tacite en disant on ne va pas se poser la question, d'accord ? Ok, on ne va pas se poser la question. Donc on ne se pose pas la question. On ne sait pas quelle question, mais en tout cas on ne se la pose pas. Et résultat, c'est une façon, comment dire, de châtrer la vie, si vous voulez, de faire en sorte comme si l'existence n'avait pas d'enjeu. Et puis après, vous avez un personnage dans Hamlet, c'est clairement Hamlet lui-même, qui avait été précédé par le fou, du roi. Ici en l'occurrence c'est Ariana qui disent non, il y a quelque chose de pourri au royaume Danemark, il y a une vérité sous les apparences, cette vérité est insaisissable, elle est spectrale, elle est nocturne, c'est la nuit, mais dissiper un peu tous ces décors, chasser tous ces figurants et secouer la table et voyons ce qui reste debout. Vous voyez, il y a ça. Et Ariana, elle fait ça, on a une grande table, surtout ne touchez pas à la table, c'est ça la convention. Elle arrive et elle secoue tout et on va voir ce qui reste. Et il reste presque rien. Mais c'est vrai, il reste presque rien parce qu'on se remplit la vie de colifichets, on se remplit la vie de jours et d'objets inutiles, de pensées fausses, on ne fait absolument pas attention à ce qu'on veut, on n'associe absolument pas notre volonté et notre action, notre pensée, on pense une demi-heure par jour et encore pas trop, on considère que la pensée est une chose fatigante et ennuyeuse qu'il vaut mieux distraire plutôt que de travailler, d'écouter, de suivre, on se dévalorise complètement et généralement on neutralise notre existence en se disant tant que comme si on prenait des antidouleurs en permanence, vous voyez, comme si on vivait constamment sous antidouleurs. Le problème des antidouleurs, c'est que bon, l'avantage c'est qu'on a pas mal, mais le problème c'est que on sait même plus du tout d'où venait la douleur. C'est absolument impossible pour un médecin de soigner quelqu'un qui est sous antidouleur. Il faut qu'à un moment il ait mal pour qu'il puisse dire où il a mal et pour qu'on puisse identifier sa maladie et donc le point sur lequel il faut travailler pour la guérison. Et comme on est constamment sous antidouleur, puis tout à coup il y a quelqu'un qui décide d'arrêter de prendre ses antidouleurs, là en l'occurrence c'est Ariana, et alors elle vit la vie avec toute sa violence. Et tous ceux qui sont sous antidouleurs lui disent, mais enfin, comment est-ce possible? Tu as tout pour être heureuse. Et elle ne supporte pas, elle dit, oui, mais bon, moi, il n'y a rien à faire. Je pense que la vie a du goût, que la vie a un enjeu, que l'existence a quelque chose. Je n'ai pas envie de passer à côté. Et donc, même si ça fait mal, je préfère de très loin souffrir à jouir. Si jamais jouir, c'est prendre des antidouleurs. Et si souffrir, c'est au contraire ne pas les prendre, autrement dit, rester libre, rester... Voilà, ça c'est un petit peu cette attitude.
Est-ce que la vie est un songe, pour aller un peu du côté de la littérature espagnole, maintenant, ouais. C'est de vos goûts à vous.
Oui, alors la vie est un songe, c'est poser le même problème, mais sous un angle différent. Ça suppose de mener la même réflexion, mais dans une autre, avec d'autres catégories. Est-ce que la vie est un songe? Parce que la question dans la vie est un songe, il faut d'abord définir ce que c'est que le songe. Est-ce que le songe est l'endroit de la vérité ou est-ce que le songe est au contraire l'endroit de l'illusion? Dans l'expression « la vie est un songe », on utilise en général dans le sens de dire le songe et l'illusion. Mm-hmm. Mais pas forcément. Quand on dit la vie est un songe, ça peut vouloir dire, en fait, la vérité est à chercher, la vérité se trouve au niveau du songe, c'est-à-dire au niveau immatériel, au niveau des structures du songe, au niveau du rêve. Là, on arrive chez Jung. Au niveau du rêve, au niveau où le temps n'existe pas comme on croit qu'il existe, au niveau où l'espace n'existe pas comme on croit qu'il existe, au niveau où l'individu lui-même n'est pas du tout séparé des autres individus comme on l'imagine, alors qu'en fait l'individu est répandu sur plusieurs individus, que l'humanité au total fait même une sorte de conscience collective, hein, on reprend toujours Jung. Est-ce que la vie est un songe? Autrement dit, est-ce que l'existence trouve sa recherche de la vérité une fois qu'elle est transposée au niveau du songe, ou transposée au niveau de la représentation artistique, ou transposée, autrement dit, spiritualisée? De ce côté-là, moi je suis totalement, disons, dans cette interprétation-là de l'expression, et même de l'œuvre de Calderón. La vie est un songe, oui, ce qui signifie qu'il faut chercher la vérité du côté du songe, du côté de la vie mentale. Et non pas du côté, disons, de ce théâtre d'apparence qui, lui, varie constamment, disparaît, n'est jamais qu'une sorte d'apparition-disparition, de feu d'artifice presque aussitôt disparu. Alors que, du côté, disons, de ce qui est invisible pour les yeux, c'est-à-dire ce qu'on voit quand on ferme les yeux, qu'on commence à utiliser vraiment sa pensée, là, de ce côté-là, on peut appeler l'univers du songe, qui est effectivement un domaine où le sommeil n'existe plus, puisque l'activité mentale ne dort pas. Hein. L'activité mentale, elle est diurne, elle est nocturne, mais elle ne dort pas, il n'y a que le corps qui dort. De ce côté-là, c'est de ce côté-là que se trouve la véritable existence. Et le véritable chemin, disons, d'avancement de l'existence ou même de l'évolution. Là, alors oui, de nouveau, à 100%, est-ce que la vie est un songe? Oui, parce que c'est simplement le songe est une sorte d'état plus avancé de l'existence.
Donc vous en avez trouvé des beaux exemples dans la littérature espagnole, j'imagine?
Disons que la littérature espagnole est même basée sur ce concept de dualité, en disant, est-ce que la vérité est dans le songe, dans la pensée, dans l'activité mentale, ou dans la plate expérience physique, avec Don Quichotte. Don Quichotte, c'est ça.
Oui.
L'histoire, et Don Quichotte est vraiment la structure même, l'emblème, voilà, l'archétype de la littérature espagnole et de la pensée, généralement, de l'art espagnol. Don Quichotte, c'est celui-là. C'est celui-là qui dit la vie est un songe, parce que la vérité est dans le songe, parce que l'avenir de l'humanité est dans la pensée, est dans la conscience, dans l'activité mentale, et pas du tout dans cette apparence de moulin, pas du tout dans cette apparence de...
Oui, on vous retrouve dans vos romans, dans cette voie-là. Alors, vous avez traduit donc un roman qui était inconnu dans le domaine francophone, en tout cas de la littérature espagnole. Pouvez-vous me le présenter un petit peu?
Oui, alors j'avais fait cette traduction donc dans une collection qui s'appelle Les Classiques du Monde, les éditions Zoé à Genève, en Suisse, et qui justement cherchait à reprendre en français des œuvres qui étaient considérées dans leur pays comme des classiques et qui n'avaient jamais eu de traduction intégrale en français. Et donc là, c'est une œuvre de Juan Valera, qui est un auteur fin 19e siècle, disons. L'œuvre apparue, maintenant ça fait longtemps que je ne me suis plus penché dessus.
1974.
Voilà, 74, merci. Ouais. Donc c'est par là-bas. Et c'est un roman qui est effectivement un classique de la littérature espagnole, c'est lu à l'école, etc. Très très agréable, très intelligent, très fin, très humoristique, là, pour le coup. L'histoire d'une... Valera était un libre penseur et qui introduit une histoire d'amour un peu salée, un peu piquante, dans le milieu des dévots, des jeunes dévots et de l'éducation dévote du sud de l'Espagne, de l'Andalousie. Donc vous avez une jeune femme qui est une jeune veuve qui a 20 ans, qui s'appelle Pepita Jiménez. Elle donne d'ailleurs son titre, elle donne le titre du livre, Pepita Jiménez. Qui est très belle, qui justement est veuve, et donc non seulement elle est très belle, mais en plus elle est très riche, enfin on est dans un scénario de comédie de Molière. Et il y a un jeune séminariste qui revient au village avant son ordination, et qui lui est un séminariste qui n'a qu'un seul désir, c'est de partir très très loin en Chine ou en Afrique comme missionnaire. Enfin, mais il est évident que ce qui se passe dans le cœur de ce jeune séminariste et dans le cœur de cette jeune âme dévote, soi-disant amoureuse seulement de l'enfant Jésus, en fait, il y a une attraction sentimentale et érotique très forte. Et tout ça se joue sous le couvert de conversations spirituelles, religieuses, presque un peu relations fille spirituelle-confesseur. Enfin, tout ça est toujours très ambigu, très, très amusant. En fait, c'est un roman qui est extraordinairement sensualiste. Valéra est un auteur très sensualiste. D'ailleurs, on en a fait un opéra de ce livre. Et voilà, c'est un roman très agréable à lire, qui n'existait pas en français. C'était très agréable à traduire, d'ailleurs.
Donc, vous avez eu beaucoup de plaisir dans les mots, mais je sais aussi que vous êtes gourmand, puisque vous avez écrit un petit livre sur la gourmandise. Est-ce que c'est un rapport ou est-ce que c'est un accident d'écriture?
C'est un accident de parcours. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une commande pour la collection Petit Éloge de chez Folio, chez Gallimard. Et je n'ai pas pris la bonne décision. J'aurais pas dû choisir ce thème-là. J'ai choisi ce thème-là à un moment donné, et puis je me suis dit, de toute façon, j'écrirai ce texte plus tard, je ne l'écris pas maintenant. Et au moment où j'ai dû l'écrire, c'est-à-dire à un moment où, enfin, comment dire, où je ne pouvais plus repousser l'échéance, j'étais rentré dans des pensées qui étaient à des années-lumière de la gourmandise, qui étaient au contraire des pensées basées sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le contraire de la gourmandise, la faim, F.A.I.M. Je venais de lire Fin de Knut Hamsun. Et donc j'étais vraiment à des années-lumière des plaisirs de la gourmandise, de la frivolité, du bonheur du palais. Et donc j'ai écrit ce livre entre deux feux, avec à la fois la conviction que ce n'est pas parce que momentanément je suis fasciné par la force de la négativité, notamment celle de la faim et de la dimension nocturne de l'existence, ce n'est pas pour autant que je dois balayer d'un revers de la main des choses qui sont également des choses riches et bonnes que je n'ai pas envie de condamner. Je déteste condamner en général. Je n'avais pas non plus envie de condamner la gourmandise, mais j'ai donc dû écrire ce livre sur la gourmandise depuis l'extérieur de la gourmandise. C'est comme si j'avais dû parler d'un musée dans lequel je n'étais plus, ou parler d'une femme que je n'aimais plus, imaginez, en faire l'éloge alors qu'on n'en est plus amoureux. Donc ça avait quelque chose de compliqué, ça donnait un livre beaucoup plus complexe que prévu, avec certains passages assez tortueux, d'autres passages totalement épanoui, parce qu'il y a quand même, eu des moments de vrai bonheur d'écriture, mais il y a aussi des moments complexes, des moments contradictoires. Enfin, c'est un livre qui est, de ce point de vue-là, un peu hybride, on va dire.
Mais l'observation, on pourrait peut-être terminer notre entretien sur cette question-là. Pour revenir d'où vous êtes parti, le goût de l'observation du réel, c'est quand même celui, avant tout, d'une richesse, d'une efflorescence, d'une chance folle. Au fond, vous partez de là après pour le questionner avec un regard critique là, qu'on a bien saisi et bien suivi. Ouais. Mais c'est quand même, il y a d'abord une acceptation. Vous êtes quand même quelqu'un qui participait au monde comme écrivain, puisque tout dans vos livres, c'est des phrases très longues, souvent quand vous êtes emballé dans cette richesse, ce sont des phrases qui sont très rythmées. Et qui sont accumulatives et qui sont emballées.
Oui. Hein?
Alors, qu'elles s'effondrent, ça c'est autre chose, mais elles construisent d'abord. Hein?
Oui. Mais j'ai un naturel, je suis un gentil garçon au départ. Je suis un gentil garçon, voilà, c'est une complexion, ça c'est une sorte d'accident, vous êtes blond, vous êtes brun, vous êtes roux. Moi je suis un gentil garçon, pas très encombrant, et généralement enthousiaste, et toujours eu grand appétit, etc. Et plein d'espérance, plein de positivité, etc. Mais bon, je vous dis, ce n'est pas structurel, ça c'est une sorte de... C'est un accident, voilà, vous êtes comme ça. Mais après, celui qui écrit, celui qui écrit, c'est pas tout à fait le moi social, c'est le moi écrivain, il est un peu à l'intérieur. Et il y a des rapports, mais pas seulement. Et il y a aussi des désaccords. Et il se fait que, voilà, le gentil garçon que je suis... petit à petit, il se prend, comment dire, la nuit tombe, voilà, là, il se prend la nuit sur la figure petit à petit. Je reste un gentil garçon, enfin voilà, j'ai généralement une intonation plutôt joviale, voilà, ça ne peut pas se refaire, mais ça n'a pas de sens. C'est comme si j'écrivais à l'encre bleue plutôt qu'à l'encre rouge, ça ne devrait pas changer le sens des mots qui sont écrits, mais voilà, il se fait que c'est comme ça. J'ai plutôt ce naturel-là qui d'ailleurs ne convient pas du tout bien à un écrivain. Pour un écrivain, il vaut beaucoup mieux avoir un naturel grave, douloureux, marqué. Ça attire plus l'attention, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et puis, donc la contemplation vient assez naturellement chez moi, en me disant que ce qu'il y a que c'est merveilleux, quoi, que c'est beau. Je regarde autour de moi, je lui dis, c'est certainement très beau, il faut comprendre pourquoi c'est très beau. Et puis après, le regard a sa logique propre et son chemin propre, la pensée a son chemin propre. Et donc, à partir de cette contemplation joyeuse, j'en suis arrivé, disons, à suivre un chemin où le soleil descendait de plus en plus, où la nuit arrivait. Je ne considère pas d'ailleurs que ce soit une malédiction, dans la mesure où il me semble que la nuit mérite au moins autant que le jour d'être visitée. Il se fait que voilà, là, je suis plutôt à visiter des paysages nocturnes.
Oui, plus proche des fleurs du mal, finalement, que d'une joie romantique, en tout cas.
Voilà.
Ça, c'est certain.
Ce qui ne veut pas forcément dire que le soleil ne peut pas se relever, parce que... On n'est pas là pour faire le résumé ni pour trouver la solution finale. On est là pour suivre l'itinéraire qu'on peut suivre avec le plus de volonté possible. Et voilà, après l'itinéraire, c'est pas nous qui configurons le paysage qu'on traverse. On le regarde et il faut assumer le paysage qui est devant soi.
C'est un paysage sensoriel et c'est un paysage langagier, mais c'est un paysage dans lequel, évidemment, il y a une autre forme de réalité qui se trouve en creusant tout cet univers.
Oui.
Alors, écoutez, je pense que Grégoire Paulet, cette fois-ci, je ne vous écorche pas. Et je vous remercie pour cet entretien très riche.
Mais c'est moi qui vous remercie.